With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui je vous invite à écouter un épisode avec Noémie Ognat, réalisé avec la marque d'électroménager française Sauter.
J'adore la compétition. Alors pas du tout dans le sens où écraser les autres et tout ça, c'est pas du tout mon délire, mais je reviens un peu sur le fait que je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses, donc c'est un peu les concours comme des nouveaux bébés. Comme ça, je les ai toujours appelés comme ça, c'est des nouveaux bébés, c'est te casser la tête, faire des nouvelles rencontres, te creuser pour trouver encore d'autres structures encore plus poussées, parce que bon, dans un restaurant ou dans une boutique, tu vas pas faire des desserts à type concours, c'est un enjeu de la rentabilité qui peut pas... Donc dans les concours, c'est me mettre en danger, c'est faire des rencontres, avoir des conseils, apprendre énormément de choses parce que le parcours est long et puis j'adore, c'est de l'adrénaline quoi, c'est de la niaque quoi, j'y vais, je suis excitée quoi, je suis stressée mais en même temps excitée, enfin c'est vraiment ça me manque un peu aujourd'hui.
Noémie Ognat est à la fois pâtissière et un peu cuisinière. Cette bête de concours, championne de France du dessert, s'est fait connaître en passant deux fois dans l'émission Top Chef à seulement 22 ans, alors qu'elle sortait à peine de l'école, avant de prendre son envol et de créer, avec son mari Quentin Bourdi, le restaurant L'Univers à Villefranche de Rouergue. Aujourd'hui, elle partage sa passion pour une pâtisserie fleurie et gourmande, avec sa structure événementielle d'organisation de mariage. Attachée au Made in France, Noémie est ambassadrice de la marque d'électroménager, experte de la cuisson Sauter, un rôle qu'elle endosse avec naturel et conviction. Avec elle, nous avons parlé de personnalité culinaire, de mousse au chocolat, de concours et de l'importance d'être bien équipée pour bien cuisiner. Bonne écoute. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Nous sommes ici dans le cadre de ton rôle d'ambassadrice pour la marque d'électroménager Sauter, dont
oui.
Nous allons parler. J'aimerais avant revenir sur ton parcours. Tu étais très jeune, passionnée pour la cuisine. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier?
Alors en fait, moi, ça a commencé très très jeune, où à la base, je voulais être architecte d'intérieur. Donc rien à voir, mais quelque part, ça se relie un petit peu. J'ai toujours adoré, en fait, tu vois, créer des choses, faire des choses de mes mains, d'avoir des choses très colorées. Et en fait, j'étais en quatrième, je m'en souviens, et je suis tombée sur un reportage d'Alice Hôtelier, justement, et j'ai plutôt apprécié, en fait, la rigueur. Et en voyant ces plats de cuisine, puisqu'à la base, j'ai commencé par la cuisine, pour moi, ça m'a tout de suite pensé un peu à une palette de couleurs de peinture, de me dire, voilà, les formes, les textures, et pour moi, voilà, la toile, c'était un peu l'assiette. Donc, je me suis confortée voilà dans ce choix en troisième et après j'ai postulé dans trois établissements, donc à Lyon, à Toulouse et à Nice. Donc c'était quand même sur dossier dans des belles écoles hôtelières. J'ai été prise dans les trois Et du coup, j'ai plutôt préféré choisir aller à Nice. Et à Nice, voilà, qui est le lycée Paul Augier, où j'ai fait 6 ans d'études. Donc, j'ai fait le bac technologique, un BTS en art culinaire et la mention en pâtisserie. J'ai commencé par un bac techno, qui est comme un bac général, mais avec l'équivalent de 15 heures de cours pratiques en plus. Donc, au cas où, si ça fonctionnait pas, on pouvait partir dans des voies un peu plus classiques. Et j'ai découvert en fait la cuisine qui m'a vraiment passionnée. J'ai découvert aussi la partie clientèle, parce que quand on fait un bac, on va réaliser du service, on va apprendre la gestion hôtelière, l'hôtellerie. Donc toutes ces choses-là où j'avais pas idée en fait à mettre les pieds dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé voilà ce contact avec les clients, la connaissance du produit, au final savoir vendre aussi ce qu'on est capable de faire, en parler vraiment avec le cœur. En tout cas, je sais aujourd'hui que ça me sert quand on a un restaurant, qu'on est gérant, on est partout. Donc, quand tu as fait toi une création, que tu as cuisiné un produit, en tout cas que tu l'as respecté, au client, tu lui vends pas quelque chose, tu lui racontes une histoire. Je vous ai travaillé un dessert autour des fraises de Papy Birou, c'est un petit papy génial qui me fait les meilleures gariguettes du marché d'Île-Franche. Voilà, donc c'est ces petites choses-là, du coup, qui sont très importantes d'être un petit peu polyvalent et de comprendre tous les métiers autour. Donc j'ai fait la cuisine, tout ça. Après j'ai fait mon BTS en art culinaire, où là j'ai eu des professeurs et je les remercie encore aujourd'hui parce que je les appelle un peu mes papas spirituels, parce que c'est grâce à eux que je suis autant passionnée aujourd'hui. C'est eux qui ont mis des étoiles dans mes yeux, c'est mes maîtres de stage, d'apprentissage, qui ont fait partie en fait de tout ce parcours, parce que malheureusement dans ce métier, si on tombe sur le mauvais stage, sur la mauvaise personne, on peut vite être dégoûté de ce métier, surtout en étant une femme, même si les choses commencent à bouger aujourd'hui et les langues se délient un petit peu. Et puis après, à la fin du BTS, je me suis dit j'ai fait de la sommellerie, j'ai fait de la salle, du restaurant, de la connaissance des produits, de la cuisine, de la gestion hôtelière. Il me manque la pâtisserie. Moi qui suis très gourmande, j'avais toujours un sachet de bonbons, de trucs dans mon sac. Voilà, j'ai toujours été très gourmande enfant et je me suis dit tiens, je vais faire de la pâtisserie. Et là, j'ai eu mon professeur que je remercierai jamais assez, Philippe Blin, voilà, qui est professeur au lycée hôtelier de Nice et qui m'a juste passionnée. Et en fait, mon choix de départ, en voulant être architecte, en me disant peut-être j'aimerais faire les beaux-arts, tout ça, et la pâtisserie, ça a vraiment répondu à cette attente, parce que je suis quelqu'un en fait qui me lasse très vite des choses. Et la pâtisserie, c'est une créativité en fait qui s'épuise pas. On va faire des sculptures en chocolat, en sucre, on va faire des desserts assiettes qui vont se détruire dans la minute, on va faire des desserts boutiques, tous les produits, voilà, enfin on a donc la rigueur, les pesées, c'est presque de la chimie et vraiment je m'éclate. Ça a été la révélation clairement, et du coup je me suis dit tiens, il y a peu de femmes pâtissières aussi, donc pourquoi pas aussi me mettre à fond en fait là-dedans.
Place
Vraiment où je m'éclate quoi, enfin voilà, de le fait de réfléchir aux structures, aux recettes, et ce qui m'aide aussi et qui fait la différence aujourd'hui par rapport sur la pâtisserie, c'est qu'en fait je suis passée par un cursus avec de la cuisine, donc j'ai pas attaqué de la pâtisserie tout de suite. Souvent la pâtisserie, on va suivre en fait une fiche technique, sauf que là en ayant fait de la cuisine, j'ai ce petit twist de dire tiens, je vais cuisiner en fait la pâtisserie tout en ayant en fait la structure et la rigueur de la pesée et tout ça. Et ça change tout, de faire n'importe quoi, une petite meringue au poivre de séchuant. En fait on assaisonne la pâtisserie. Quand je parle de travailler mes fruits, je dis tout le temps, j'assaisonne mes fruits comme une viande, comme un poisson, avec des aromates de pâtisserie, des herbes, des épices. Et ça change tout, on ne s'arrête pas juste à une fiche technique ou une recette où on suit un peu bêtement le procédé.
Tu as tout de suite travaillé dans des établissements gastronomiques, tu avais envie d'évoluer un niveau étoilé ou gastronomique en tout cas.
Bien sûr, oui, j'ai eu la chance de travailler sur la Côte d'Azur, donc déjà en étant étudiante, j'ai toujours travaillé les week-ends, les vacances scolaires, tout ça, quand on fait les festivals de Cannes, les Grands Prix de Monaco, tout ça, on a quand même la chance d'être sur une région où on sollicite vachement les étudiants, parce que c'est des événements où ils sont un petit peu débordés, donc travailler tout de suite au au Carlton, au Hilton, au Majestic, au, voilà, au Palais du Festival. Enfin voilà, donc toutes ces petites choses-là, c'était sympa pour des petits extras et tout. Et puis après, j'ai aussi travaillé voilà, sur Eden Rock, le Cap Eden Rock, qui est quand même un magnifique établissement. Là, je travaillais un petit peu en cuisine, en salle, au room service, voilà. Et donc voilà, ça m'a vraiment confirmé l'envie de travailler voilà, dans ce type d'établissement, de monter évidemment les échelons petit à petit parce qu'on commence forcément commis. Faut dire aujourd'hui voilà, aux jeunes que c'est pas que de la télé, c'est voilà, on commence, il faut mériter sa place, il faut se battre, surtout dans un milieu voilà, qui n'est pas facile, il faut pas compter ses heures. Enfin, je veux dire, voilà quoi, si on est passionné, on est dans la restauration quoi. Et puis on travaille quand les gens prennent du plaisir. Donc tu vas travailler peut-être pour Noël, le jour de l'an, quand les gens sont en vacances, bah, toi tu travailles. Donc on a eu une vie vachement décalée. Ma maman, en fait, quand je lui ai dit que je voulais faire l'école hôtelière, elle a essayé de m'en dissuader, en fait, dès le début. Elle m'a tout de suite dit, déjà en troisième, mais t'auras pas de vie, ça va être compliqué d'avoir une famille, enfin voilà, les heures, les machins et tout ça. Elle m'a vraiment essayé de me dissuader, mais bon, après, je suis quelqu'un, voilà, qui, quand j'ai une idée dans la tête, en général, pour me la faire retirer, ça va être un peu compliqué. Et du coup, voilà, elle a essayé de me dissuader. Et en fait, j'y suis allée, j'ai fait l'école hôtelière et en fait je lui ai prouvé que bah voilà oui j'étais pas là pour les vacances scolaires, j'étais pas là pour je travaillais à Disneyland Paris pendant les vacances scolaires pour faire Noël, jour de l'an, tout ça. Aujourd'hui j'oublie pas d'où je viens, je travaille dans des boulangeries, voilà, mais aujourd'hui j'oublie pas d'où je viens et quelque part voilà c'est tout ce petit parcours qu'a forgé et aujourd'hui bah ma mère est fière même si elle est pas du métier donc elle comprend pas en fait le
L'investissement,
voilà. Donc, on va dire la reconnaissance, je l'ai vraiment eue vis-à-vis de ces chefs qui ont été comme mes pères, en fait, et qui le sont encore aujourd'hui, à qui je donne toujours des nouvelles et je les vois régulièrement. J'oublie pas, je leur ramène pour le coup mes enfants, ce qui est un peu bizarre. Et ouais, donc c'est tous ces gens qui ont fait partie voilà de ce parcours. Et à partir de 2010, je me suis imposé un concours par an. Voilà. Donc, 2010, voilà, ça a été un peu le déclic.
Et comment ça se... T'avais envie de faire des concours,
c'était ouais, quelque j'adore, chose qui, en fait, j'adore la compétition. Je sais pas que je suis née pour ça, mais alors pas du tout dans le sens où écraser les autres et tout ça, c'est pas du tout mon délire. Mais je reviens un peu sur le fait que je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. Donc, c'est un peu les concours comme des nouveaux bébés. Comme ça, je les ai toujours appelés comme ça, c'est des nouveaux bébés. C'est te casser la tête, faire des nouvelles rencontres, te creuser pour trouver encore d'autres structures encore plus poussées. Parce que bon, dans un restaurant ou dans une boutique, tu vas pas faire des desserts à type concours. Voilà, dans un restaurant que tu vas servir tous les jours. Malheureusement, dans des restaurants ou dans des boutiques, t'as un enjeu de la rentabilité qui peut pas. Donc dans les concours, c'est me mettre en danger. C'est faire des rencontres, ouais. Avoir des conseils, apprendre énormément de choses parce que le parcours est long. Et puis j'adore, c'est de l'adrénaline, quoi. C'est de la niaque, quoi. J'y vais, je suis excitée, quoi. Je suis stressée, mais en même temps excitée. Enfin, c'est vraiment, ça me manque un peu aujourd'hui. Voilà.
C'est comme ça que t'es arrivée dans Top Chef, donc ce goût des concours, t'en avais fait plusieurs avant.
C'est ça, en fait, en 2010, j'ai fait le jeune talent de la gastronomie en cuisine que j'ai remporté. Donc, je parle de ça il y a 10 ans, quoi. Et j'étais la seule nana, déjà, la seule nana de Nice. Il y a aussi ce petit côté un peu... en étant cuisinière ou pâtissière, on n'est pas obligé de ressembler à Maïté, quoi. Enfin, voilà, on peut être coquette, on peut prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on fait de la pâtisserie, qu'on va manger des gâteaux tous les jours. Enfin, ce cliché, ce truc. Et puis, le côté femme où, selon certaines personnes ou certains chefs, on serait peut-être plus sensible, plus fragile. Et en fait, faut pas oublier que les premiers gâteaux et les premiers plats qu'on a mangés, c'est un peu ceux de notre mère. Donc le côté femme dans le métier, voilà, c'est bien de l'imposer et puis de montrer voilà qu'on peut. C'est pas parce que j'ai des doigts qui font 3 cm et que je fais 1m55 que ça va pas le faire. Donc il y avait aussi ce côté un peu féministe qui me poussait dans les concours.
Montrer une autre
et puis
image,
le jour où je l'ai gagné quand même, déjà en 2010, hein, donc j'étais en BTS, le jour où je l'ai gagné, j'ai quand même un chef mof, meilleur ouvrier de France, qui est venu me voir et qui m'a dit « Bravo, tu l'as gagné haut la main et grâce à ça, en fait, il y a des gens qui ne voulaient pas te le donner parce que tu étais une femme. Mais comme tu l'as gagné haut la main, bravo !» Et on m'a sorti ça, la remise des prix, quoi. Donc, on se dit, bon, OK, dans quel monde t'arrives ? Et ben ça, moi, en fait, je le prends vraiment encore plus comme une force. Donc, j'ai dit, OK. Donc, j'attaque les concours et on y va. En 2011, j'ai fait le championnat de France du dessert. Donc, j'ai été très, très bien coachée par Luc Deboeuf, par Jean-Christophe Bonello, par Philippe Blin, tout ça. Et c'est un merveilleux concours. C'est un peu ça qui a un peu déclenché toute ma carrière. Donc, en l'ayant remporté en étant étudiante, là j'ai vraiment adoré. Voilà, donc j'ai mis le pied vraiment dans les concours de pâtisserie. Et suite au championnat de France du dessert, quelques mois après, je faisais le Duval-le-Roi. Enfin voilà, j'ai pas mal enchaîné après les concours. Et c'est Top Chef en fait qui sont venus me chercher, qui m'ont contacté pour passer le casting. Donc, sachant que j'étais en saison à Eden Rock, je me dis, mais vous êtes sûr, on est au mois de juillet, moi j'ai fini l'école en fait au mois de juin. Donc elle me dit, écoute, voilà, il y a des castings, il y a des épreuves avec des meilleurs voix de France. Donc voilà, j'ai pas juste comme ça sur un profil qu'on caste les gens. J'ai passé les épreuves et en fait, je finissais ma saison le 15 octobre. Et ça démarrait, je crois, la semaine d'après, quoi. Donc, j'ai dit, tant qu'à faire, j'ai pas de saison derrière, on y va, quoi. Mais c'est vrai qu'en arrivant, en étant très jeune, j'avais quoi, 19-20 ans, on fait le tour de table. Bon, salut, moi, je suis Jean, j'ai mon resto. Salut, moi, je suis Tabata, je bosse chez Bocuse. Salut, je suis Noémie, je suis pâtissière et puis je sors de l'école. Donc, c'était un peu stressant. Ça a été une expérience de dingue. Surtout au niveau rencontre, j'ai gagné peut-être 10 ans de contact, 10 ans d'épreuves de vie, de faire des choses en fait que je referais jamais dans ma vie. Le problème qui s'est passé dans mon premier Top Chef, c'est que j'étais trop jeune et je l'ai vécu vraiment comme un concours. Ça a toujours été un concours professionnel, mais j'en ai oublié de prendre du plaisir. Et ça a fait la différence, même si je suis allée en quart de finale en étant très jeune.
Et plus axée sur la pâtisserie en plus, là, alors
que. Voilà, alors que après, là, j'avais voilà, cuisine, mon métier, c'est si un art culinaire, ouais. Mais j'avais ce petit côté voilà, pâtissière qui faisait un petit peu la diff. Mais. J'étais trop stressée, j'étais toujours là, faut pas que je sois éliminée, machin, donc j'en ai oublié de prendre du plaisir. Donc je me suis dit, c'est à refaire, voilà. Donc j'ai continué ma lignée, j'ai continué ma vie, j'ai travaillé ensuite en Belgique pour Jean-Philippe Darcy, pour gérer ses boutiques, on a fait pas mal de créations et tout ça ensemble. J'ai été championne de Belgique sur le trophée Jacques Rouart. Donc j'ai continué les concours, voilà, c'était peu des sculptures en chocolat, des choses voilà sympas. Et Top Chef m'ont rappelé, donc entre temps j'ai rencontré mon petit mari Quentin et
qui a fait Top Chef aussi, mais l'année d'après.
Qui avait fait
toi,
Top Chef hein, l'année d'après, mais on s'est rencontré un petit peu au salon du chocolat. Mais bon, ça je vous en reparlerai après, c'est un peu romantique. Et donc du coup Top Chef m'ont rappelé donc pour faire la saison en 2014 avec Quentin. Et donc là, en fait, je savais ce qu'il fallait faire un peu. Alors, on ne peut pas juste savoir ce qu'il faut faire pour gagner, loin de là. Mais je savais, en fait, qu'il fallait que je prenne du plaisir. Et en fait, j'étais dans un état d'esprit, je gagne, tant mieux, je perds, je retrouve Quentin. Et ça, en fait, j'y allais et j'ai kiffé chaque épreuve. Bon, évidemment, sauf celle du bateau où j'ai le mal de mer. Et j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir et la rencontre des chefs et les contacts. Et puis même par la suite, parce qu'on fait des gâteaux, on ne sauve pas des vies. Et quand il y a eu le premier Top Chef, je l'ai très mal vécu après parce qu'on n'est pas entouré, on se retrouve dans un monde de requins. T'as 20 ans, je me dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne dans les maisons étoilées ? Mais en même temps, j'étais fichée. Qu'est-ce que je fais en fait ? Donc du coup, je suis partie travailler. J'étais chef sur des yachts sur Monaco, sur des gens, pour des Russes qui connaissaient pas forcément l'émission. Donc ça m'a fait du bien parce que quand tu te retrouves, à l'époque j'étais à Nice, de marcher dans la rue, les gens te prennent en photo. J'ai pas en fait compris moi quand j'ai dit OK. Et puis, c'était que la troisième saison. C'était pas comme aujourd'hui où on comprend un petit peu, où même les gens qui s'inscrivent, ils cherchent de la notoriété.
Ouais,
moi, j'ai fait juste un concours
pieds, là,
à la base.
Tu savais pas. Enfin, voilà. T'étais jeune.
C'est ça.
C'était
et puis,
nouveau,
tu peux vite vriller les rencontres que tu fais, des agents. On te propose des cachets, des choses que, toi, en fait, c'est ton pauvre salaire de commis, de trucs. Enfin, donc, t'es là, qu'est-ce que je fais, en fait ? Est-ce que je m'arrête sur mes lauriers ? Après, du coup, j'ai repris, la continuité de travailler pour Jean-Philippe Darcy, pour tout ça. Et puis, ils m'ont rappelé. Donc, du coup, j'ai dit, OK, on le fait, machin. Et au final, je vais en finale. Donc c'est cool, je me suis trop éclatée. Mon gros copain que j'embrasse très fort d'ailleurs, c'est Pierre Auger. C'est son père a fait notre mariage. Enfin, voilà, c'est comme un grand frère. C'est encore une des seules personnes de Top Chef avec qui je respecte énormément et j'admire beaucoup. Parce que ce qu'il fait, c'est super. Et puis, 2014, après, j'ai continué les concours. J'ai refait le championnat de France des desserts. On a été repérés par le Goemio, grâce à Marc Esqueré. Grâce au Goemio, et je tiens à le préciser, on a été légitimés aussi. Parce que passer à la télé, on nous prend un petit peu pour des pimpins. Et puis, en étant jeune, tout ça. Donc là, grâce au Goemio, on a été légitimés par rapport à notre travail. Donc, ils sont venus à Villefranche-de-Rouergue, dans notre restaurant, à l'Univers. Et ils ont jugé notre cuisine. Et dans la foulée, on a été jeune talent Goemio. On a été restaurant coup de cœur. On a eu deux tocs avec Quentin. Et puis en plus, toutes ces nominations, on les avait ensemble. Donc c'était trop beau, quoi. Enfin, c'est pas juste un chef dans sa cuisine ou quelqu'un en salle. Enfin, ça a vraiment été magnifique et ça l'est toujours. Et on a vraiment eu un vrai retour, en fait, là-dessus. Parce que c'est vrai que la clientèle du début, quand Quentin a repris, il se prenait pour des jurés de Top Chef. C'était vraiment en mode, c'est bon, en gros, oui, moi je dis oui, et presque ils nous notaient et tout. Enfin, c'était juste horrible. Et le Goemio a apporté une nouvelle clientèle. Voilà. Et après, ça a suivi avec le Michelin où on a eu le Bib Gourmand, on a été jeune talent révélation culinaire par les gastronomades. Voilà. Donc on a eu pas mal de distinctions qui ont fait beaucoup de bien par rapport à notre estime de soi et se dire, ok, on fait pas juste des choses pour la télé. Il y en a dans l'assiette. Et puis après, ça a été avec notre clientèle qui sont revenus. En fait, ça a permis, mine de rien, Top Chef, et je cracherai jamais dessus parce que c'est un vrai tremplin tant sur les relations, tant sur les contacts. Je veux dire, quand t'as 20 ans et que tu gagnes 10 ans de contacts, voilà, c'est des choses, voilà. Et puis mine de rien, on est un peu propulsé, on a déjà un nom sans passer par la petite case ou monter pour le coup ces échelons qui sont compliqués à sortir un petit peu de l'anonymat. Et surtout, ça nous a fait venir des clients à Villefranche-de-Rouergue. Je veux dire, nous, on habite en Aveyron, on est à la campagne, on n'a pas juste ouvert un petit resto à Paris. Donc, les gens ont dû se déplacer. Ils sont venus et la chance qu'on a eue, ils se sont déplacés grâce à ça et après, ils sont revenus pour l'assiette. Donc, ça a vraiment été, même économiquement, une chance, quoi, une vraie chance.
Oui, tous ces guides, comme tu dis, ça apporte une légitimité.
Carrément,
ça te légitime
carrément,
dans ta cuisine, dans ce que tu fais. Plus que la télé. La télé, ça...
Alors, la télé, voilà, ça nous fait repérer. Parce que est-ce que le Goemio serait venu à Villefranche-de-Rouergue dans notre restaurant ou serait mis peut-être plus de temps? Voilà. Et là, ça a été le fait que j'ai fait un événement, machin, on s'est rencontrés et puis au final, il s'est déplacé. C'est génial, en fait. La vie est faite de rencontres et pour moi, il n'y a jamais rien par hasard. Voilà, on provoque un petit peu la chance, mais il n'y a jamais rien par hasard. Et puis voilà, après même le Goemio m'a inscrit en 2016 à un petit concours où j'ai été toc d'or, avec Michel Roth, c'était super. Il y a encore ce côté légitime, ce côté où ça fait du bien, où on n'est pas forcément catalogué sur ce qu'on a fait à la télé. Et on a aussi une vraie relation sur comprendre, c'est-à-dire demain on perd une toc. J'appellerai Marc Esqueré pour vous dire, mais pourquoi on a perdu cette toque et qu'est-ce qu'il faut faire pour la regagner? C'est pas en mode épée de Damoclès au-dessus de la tête ou au final on travaille pour ces toques. Voilà, c'est vraiment la différence.
Tu te souviens de la première fois où tu t'es senti chef?
Alors non, ça m'a plus fait rire. C'est pas une question, je suis pas chef, je suis juste Noémie qui fait des pâtisseries. Tu veux que je te... là je viens de prendre un poste de professeur de pâtisserie au lycée hôtelier de Villefranche-de-Rouergue où je tiens la classe de mention pâtisserie. Et tu me dis ça, je te dis ça, c'était il y a 3 semaines, où quand les élèves me disent « Oui, chef !» Ça m'a fait rire. Enfin, au fond de moi, quoi. C'était là « Oui, madame, oui, chef. Un chef, on fait que... » Et là, ouais, là, je me suis dit « Ok, maintenant, je suis une madame. » Voilà, donc ça, voilà, je te dis ça il y a 3 semaines, quoi. Voilà, donc,
c'est tout récent.
Voilà, c'est tout récent et encore... en fait, c'est pas une question d'être chef et de se dire, je suis chef, appelle-moi chef, machin. Non, c'est plus le fait d'avoir la responsabilité de transmettre. Voilà, et de... Je l'avais, j'ai déjà eu des apprentis, j'ai... mais là, une classe et tout ça, et puis de leur transmettre les choses, et puis essayer vraiment de transmettre cette passion, et pas être, voilà, le professeur, voilà, parce qu'il y a un peu de tout, et puis bah, j'ai eu un très bon modèle, d'ailleurs je l'ai appelé tout de suite quand on m'a proposé ce poste, et voilà, et je lui ai demandé tout de suite conseil, et j'ai qu'une envie, c'est de transmettre à ses élèves comme moi on m'a transmis, et puis peut-être faire les grandes demain, en tout cas qu'ils soient passionnés et qu'ils soient heureux de leur formation, après le reste, voilà, et qu'ils sachent les bases, qu'ils trouvent en fait leur signature, qu'ils trouvent leur... leur chose à eux qui va démarquer en fait leur dessert.
Et toi, comment tu t'es comment t'as construit ton style?
Bah moi en fait c'est le style, il y a pas vraiment de style, c'est surtout le côté un peu féministe, c'est le j'ai toujours adoré les fleurs comestibles. En fait, on va dire que le style que j'ai eu, c'est grâce aux rencontres que j'ai eues. Par exemple, j'ai rencontré Sandrine Oda qui travaillait donc qui m'a fait découvrir en fait les fleurs comestibles dans l'arrière-pays niçois puisque j'habitais plutôt à Nice voilà avant à l'école hôtelière et à mon tout premier concours en fait il y a 10 ans donc quand j'ai fait la coupe Lady Hier Chartreuse je l'ai appelée un peu au culot j'ai pris une barquette j'ai dit écoutez voilà je suis Noémie machin je prépare un concours est-ce que je peux venir voir vos fleurs elle me dit ben quand bah tout de suite voilà et donc c'est parti de là. Et en fait, aujourd'hui, c'est une très, très grande amie. Voilà, c'est vraiment une amie très, très chère à mon cœur et qui me donne énormément de conseils. Elle a une dizaine d'années de plus que moi, quoi. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est elle qui m'a donné la passion des fleurs parce que déjà, bon, les fleurs, j'ai toujours adoré ça. Enfin, c'est coloré, c'est pétillant, c'était pas commun il y a 10 ans. Et c'est un vrai intérêt gustatif, en fait, quand on s'y intéresse. Moi, je vais utiliser du bégonia bah, parce que c'est un intérêt, ça a du pep, ça a un goût citronné. On va mettre telle herbe, telle chose, de la soja ananas, toutes ces petites choses-là. Et ça va vraiment faire la différence. Et donc, les fleurs, oui, je fais toutes mes créations avec des fleurs, j'adore ça. Et on a un côté, voilà... gai, coloré toute l'année et c'est un peu mes palettes de couleurs aujourd'hui. Voilà. Et après, bah, évidemment, je suis un peu cataloguée avec des petits points parce que j'aime le côté minutieux, donc j'aime bien faire des petits points et je les assume. Voilà.
Et ça s'est construit petit à petit au fil de ta carrière ou cette ligne directrice était déjà très présente dès le début?
Non, ça a été présente dès le début en fait. Comme je te dis, c'est vraiment mon tout premier concours quoi. Donc vraiment, j'ai découvert les fleurs et puis après c'était évident pour moi d'en mettre à chaque fois quoi. Parce que ça me plaît, parce que j'aime en fait tous les sens. T'as le goût, t'as l'odeur, enfin t'as tout en fait. T'as un toucher, t'as je sais pas. Et puis donc voilà, on va dire que l'évolution de la signature après. C'est vraiment les rencontres et la particularité après gustativement dans mes desserts, c'est que je fais des choses très peu sucrées et très frais. Je suis vraiment axée sur le fruit. Déjà, le gros cliché en fait, c'est que je n'aime pas le chocolat. Voilà, j'aime peu le chocolat pour une pâtissière et quand je le travaille subtilement. J'apporte ce côté gourmand, mais moi-même, personnellement, je mange pas trop de chocolat. Enfin, voilà, moi, commander un moelleux au chocolat dans un restaurant, je le fais pas. Enfin, voilà. À part quand j'étais enceinte où là, j'ai fait orgie de chocolat. Je travaille vraiment des choses très peu sucrées, vraiment axées sur le fruit, travailler des fruits de saison. Alors, ça fait partie aussi du parcours, parce que ça, c'est clairement grâce à Quentin. Moi, j'ai fait l'école hôtelière à Nice. On travaille dans des palaces. Une cliente qui veut manger une mangue dans un palace au mois d'août, elle aura sa mangue au mois d'août, je veux dire, elle sera importée, elle sera malheureusement, c'est comme ça. Si elle veut manger les meilleures fraises des bois au mois de décembre, elle les aura. Donc c'est bête, mais on en est là, quoi. Donc c'est Quentin, en arrivant évidemment en Aveyron, quand je lui dis, ouais, on va faire une carte, je dis, bah ok, je vais faire un dessert aux fruits rouges, un dessert aux fruits exotiques, un dessert aux agrumes, un dessert au chocolat. Il me dit, non, mais... t'as pas compris, là on va faire le marché et puis on va faire en fait avec ce qu'il y a sur le marché quoi, avec voilà, sans produits importés, sans tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a appris et qui m'a aidé. Et pour le coup, Top Chef m'a aidé sur le fait de pouvoir improviser de très vite en fait des choses. C'est-à-dire que quand je vais sur un marché, on arrive beaucoup plus vite grâce à Top Chef ou avec le parcours à se projeter sur une recette.
Donc tu vas faire le marché à Villefranche-de-Rouergue, tu regardes ce qu'il y a sur les étals.
C'est ça.
Et c'est ça qui te donne l'inspiration pour construire aujourd'hui tes desserts.
C'est ça. Ou quand elle me dit, tiens, j'ai vu ça sur le marché, ce serait bien. Alors bon, on a un petit peu de fierté et d'orgueil avec son mari, mais au final, je le fais à la fin.
Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle modèle pour les autres femmes chefs?
Non, je pense pas que j'ai un rôle modèle.
Pour le grand public, tu vois, tu peux aussi inspirer, enfin, t'inspires aussi des jeunes ou des moins jeunes à faire de la cuisine.
J'ai la chance, voilà, d'avoir une belle communauté sur Facebook qui sont très vraiment bienveillants, très gentils, toujours attentionnés avec un petit mot sympa et qui me motive en fait à continuer. Après, ce qui est compliqué une fois que t'as fait de la télé, c'est de continuer à rester légitime vis-à-vis des chefs. Parce que mine de rien, il y a une jalousie qui se crée. Et on va dire que la plupart des derniers concours que j'ai fait, je dis bien la plupart, j'ai été jugée sur ma tête et pas sur mon résultat, sur mon assiette. Quand il y a des jurys qui te sortent, oui, on est concurrents parce que nous, on est sur une autre chaîne et toi, t'es sur la 6. Ou tiens, là, on n'est pas dans le Top Chef. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a une espèce de... C'est compliqué d'être encore plus légitime dans le milieu professionnel quand t'as fait un peu de la télé. Alors que quand on appelle ces chefs-là pour faire de la télé, c'est les premiers à sauter dessus pour paraître dedans. Donc il y a un côté un peu vicieux, il y a un côté vieillot aussi dans certains jurys. Voilà, moi j'ai aucune peur, aucune honte de le dire. J'ai gagné des concours, j'ai perdu des concours. Maintenant, évidemment qu'il y a toujours meilleur que soi dans la vie. Ce qui est important, moi, dans les concours, c'est le parcours. Par contre, si tu perds, je veux comprendre pourquoi. Voilà, évidemment que quand je fais un concours, je ne le fais pas juste pour participer, c'est des conneries. Voilà, je le fais parce que j'ai envie de... Mais mon but ultime, c'est d'envoyer ce que j'ai prévu. Voilà, si je pars sans remords, j'ai gagné. Après, il y a toujours meilleur que soi, et il faut le reconnaître, évidemment. Mais quand on te fait des petites réflexions comme ça, où il y a des choses qui ne sont pas logiques, et on ne comprend pas, ou on ne donne pas forcément les réponses, ou qu'on invente des choses, voilà, là, ça me met en colère. C'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté les concours récemment. Enfin, voilà, parce que le dernier concours que j'ai fait, j'étais enceinte de 4 mois. Donc voilà, j'étais en mode... Hein. Mais ça me manque, ça me titille, là. J'ai tellement envie d'en refaire et tout ça. Mais je me dis, le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais je suis très perfectionniste. Et quand je fais un concours, j'y vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que je crée mes assiettes, je fais plein de choses énormément. Voilà, je vais jusqu'au bout, je pense concours, je dors concours, voilà. Et... Je me dis aujourd'hui, est-ce que tu perds du temps pour peut-être, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu mets ta famille de côté, pourquoi ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça en vaut la chandelle en fait ? Est-ce que tu vas être jugé sur ton travail final ? C'est pas forcément le cas tout le temps. Peut-être faire des choses à l'étranger, peut-être m'attaquer à des plus gros concours, mais voilà, toujours avec la peur d'eux.
Parmi tes convictions, on retrouve le goût du Made in France. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi ?
C'est trop important le Made in France. Ça se perd. C'est bon quoi, les produits Made in China, on en a vu et revu. Je découvre en fait le Made in France avec certains produits et ça change vraiment tout. Ça change tout. Là par exemple avec Sauterre, Made in France, c'est génial. On est fiers en fait de se dire que ben ça crée des emplois, que le produit est fiable, qu'il y a un vrai suivi derrière et en plus que c'est à la page quoi. C'est high tech, c'est dans la technologie. On commande en France, on produit en France. Il faudrait qu'on presque, je dis pas qu'on ferme nos frontières parce que ça aide aussi sur toutes les bourses ou ça aide beaucoup de choses. Mais pour moi, la Suisse est un modèle. La Suisse travaille beaucoup en interne, quoi, que ce soit sur leurs produits alimentaires, que ce soit sur leurs produits de fabrication et tout ça. Donc en France, justement, sur Sauterre, sur ce genre de produits, il faut qu'on continue à acheter français.
Pas que pour les ingrédients, mais aussi
voilà, pas que
dans
les
toute sa cuisine.
Carrément.
Donc l'électroménager, comme tu disais, Sauterre, enfin ça c'est important de soutenir.
Oui, il y a plein d'autres marques qui font du français et qui marchent très bien. Et,
en tout cas, toi, tu es sensible à ça dans toute ta cuisine. Comme on disait, pas seulement sur les ingrédients, t'essayes de consommer français
au maximum. Moi, après, ma cuisine est équipée Sauterre. Donc, j'ai pas le problème là-dessus, ma cuisine où je cuisine tous les jours avec mes enfants et tout ça. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est important. C'est important. On y revient, en fait. Ouais. On y était perdu un petit peu il y a des dizaines d'années. On y revient. et quelque part ça crée des emplois. Alors oui, il y a plus de charges parce qu'en étant gérant, hein, on sait combien ça coûte et puis c'est compliqué, voilà, dans le système dans lequel on est. Et je peux comprendre que sur des grosses boîtes, il y en a qui préfèrent s'exporter ailleurs. Maintenant, il faut y revenir. C'est important.
Comment s'est construite ta relation avec Sauter?
Écoute, bah, c'est grâce au Goemio. Voilà, faut le dire. Hein. Goemio m'ont appelé, m'ont dit voilà, je connaissais pas. Je suis honnête avec toi, je connaissais pas Sauter. J'en avais entendu parler, mais j'ai pas plus testé. Voilà, malheureusement, on entend plus parler des gros groupes made in China que bah, des petits groupes français, ou même pour le coup, là, on est quand même sur des grands groupes. Mais ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, est-ce que tu veux bien tester le four? Voilà, on a quelques recettes, on voudrait faire une petite web série et tout ça. Je dis bah, pourquoi pas. J'ai rencontré Tania, donc qui travaille chez Sauter, et ça a commencé en fait avec une relation, et puis on a papoté. Et c'est vrai que moi, toutes mes relations, en fait, on va dire, c'est même pas de travail, deviennent maintenant des relations amicales. On travaille beaucoup sur la confiance, et en fait, en apprenant à travailler en fait les produits, on s'apporte en fait mutuellement. C'est-à-dire qu'elle me dit ah mais tu vois, regarde, on peut faire telle et telle fonction que je connaissais pas. Puis moi, je lui dis, bah, regarde, j'ai fait telle et telle recette, on peut peut-être tenter ça. Et en fait, on s'apporte des choses mutuellement qui vont faire évoluer et moi, ma cuisine, et elle, son produit. Et le fait de l'avoir testé, enfin, bah, j'ai dit ok. Et au final, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille ensemble. Je vous dis, je l'ai rencontrée. Je venais d'accoucher de ma fille. Ma fille avait 1 mois, donc elle est venue sur les tournages avec moi puisque je l'allaitais. Et entre 2 prises, hop, bah, j'allais l'allaiter, machin. Donc il y a une vraie relation de confiance qui va au-delà d'un partenariat. Et quand je travaille avec une marque, je parle avec le cœur parce que je l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, je fais des lives tous les dimanches et je cuisine tous les jours sur ma plaque, sur mon four. Donc, j'en parle avec le cœur, avec expérience aux gens. Il n'y a pas, genre, je suis pas en mode téléachat ou quoi pour juste vendre et prendre un cachet. Non, on travaille. Par contre, si ça va pas, voilà, je dis, ça va pas ou cette fonction, ça va pas. On en parle. L'idée, c'est de faire évoluer les choses, mais d'en parler sincèrement aux gens pour arrêter de les tromper parce que ça marche plus.
Cela a donné naissance à la web-série Un chef dans ma cuisine. Le concept, c'était d'aller dans les familles pour leur faire découvrir des techniques culinaires.
C'est ça. C'était de leur faire apprendre des techniques, des recettes, et de montrer qu'on n'est pas obligé d'être chef 3 étoiles pour sortir un résultat sympa. On peut avoir du visuel et faire quelque chose de rapide, parce qu'aujourd'hui, bah, les mamans sont pas forcément à la maison, hein, travaillent, ou même les papas, parce que les papas cuisinent aussi. Enfin, ou le papa-maman, les gens de tous les jours, peu importe, hein, étudiants, enfin, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que on a aussi aujourd'hui une contrainte de temps, une contrainte aussi budgétaire, pour certaines familles, pour certaines personnes. Donc, il faut répondre à tout ça. Et dans la web-série, ce qui est bien, c'est de montrer que c'est accessible. Et que d'avoir aussi, des fois, du bon matériel, c'est comme avoir un bon produit. Et donc, ça devient vite facile.
J'ai une tradition dans mon podcast, c'est le questionnaire aller-retour.
Vas-y,
il faut que tu répondes du tac au tac.
Pas de souci.
Ton âge?
31 ans.
Ton plat signature?
La tarte au citron.
Ton plat préféré à manger?
Les plats de mon mari, son jus de viande. C'est même pas un plat, c'est des fois, tu vois, j'ai tellement faim, je me fais une petite casserole de jus. Il a mis 3 jours à le cuire sur un fourneau. Et tu vois, je me prends une baguette de pain là et je sauce. On s'en fout, c'est monté avec une plaquette de beurre, le gras, c'est la vie. Mais franchement, j'adore ça. C'est sa signature. Voilà, le petit jus de viande, c'est le jus de mon mari.
Le chef que tu admires le plus?
Il y en a tellement. Ouais, je pourrais même pas répondre à un. Anne-Sophie Pic, parce qu'elle fait ma taille et je l'admire beaucoup. Elle paraît tellement sage. Enfin voilà, Anne-Sophie Pic, j'aime beaucoup ça. C'est très minutieux ce qu'elle fait. J'adore.
Ton ingrédient préféré?
Le citron.
Ton ingrédient détesté?
L'orgeat. J'aime pas l'orgeat.
Ton ustensile fétiche?
Le fouet. On se fait les bras, on fait le sport avec, on fait tout.
Ton dernier meilleur repas?
Les pâtes au mori de mon mari.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
Quand les gens me disent je retrouve le goût de mon enfance, ben j'ai tout gagné. Et voilà, ça c'est les meilleurs compliments qu'on peut me faire. Ou voilà, juste on a mangé le dessert, merci quoi. Enfin, c'était super.
Et la pire critique?
Et après la pire critique, Je les écoute pas, j'ai pas le temps.
Bon, avec ton mari, Quentin Bourdi, rencontré pendant l'aventure, enfin, pas vraiment pendant l'aventure de Top Chef, mais presque, entre deux aventures Top Chef.
On s'est rencontré au Salon du Chocolat, grâce à une tablette de chocolat. Je te jure que c'est vrai.
Le comble pour celles qui n'aiment pas le chocolat.
Ouais, c'est ça. Bah, après, j'aime pas. Après, je faisais une démo, tu vois, au Salon du Chocolat à Porte de Versailles, il y a 8 ans maintenant. Presque, enfin pile poil, hein, presque, il y a voilà, une semaine près. Et puis, Top Chef m'ont rappelé pour être jury la veille, donc où je faisais mes démos, pour être jury pour l'épreuve des restos. C'est la pire épreuve que j'ai vécue dans Top Chef, parce que tu prépares un restaurant éphémère pendant trois jours, avec un équipier, tu bosses comme des dingues jour et nuit et tout. Tu prépares à manger, tu prépares ta carte, il y a tout qui est prêt. Et en fait, t'as des gens qui rentrent pas juste sur le visuel de ton resto extérieur.
J'ai participé l'année dernière. Ah, quand j'étais jury, c'était horrible.
C'est juste horrible. Et donc moi, j'avais été éliminée tout de suite. Donc, j'avais tout qui était prêt, les repas, et j'avais été éliminée tout de suite parce que il y avait de la couleur verte sur les murs et que ça plaisait pas. Donc Donc c'était juste horrible de pas pouvoir servir ce qu'on avait fait, tout le boulot qu'on avait fait. Voilà. Donc je suis jury l'année d'après et Quentin fait avec Jean-Philippe. Un concept un peu qui me rappelle le mien, un petit peu qui sort de l'ordinaire en fait. Et j'étais la seule à avoir voté pour eux, voilà. Mais je savais pas qui c'était, hein. Enfin, on voit que le restaurant, donc voilà. Et donc, à la fin du tournage, je vais voir la nounou qui s'occupe des candidats et je dis, est-ce que je peux parler à ceux qu'on perdu, filles, garçons? Elle me dit, non, ils sont en interview. J'ai dit, écoute, voilà, j'ai du chocolat sur moi, j'avais des tablettes de chocolat en plus bio, Alter Eco. Et du coup, je lui ai dit, tiens, tu donneras aux candidats qui ont perdu, tu leur dis que je suis la seule à avoir voté pour eux et que je comprends, et tu leur dis, merde pour la suite, tu leur dis merde pour la suite et tout ça pour continuer. Et du coup, elle leur fait passer. Le lendemain, je reçois un message sur Facebook de Quentin. Bon, moi, je sortais du tout d'une relation très compliquée, donc j'étais pas du tout en mode tiens, voilà. Et il m'envoie un message, il me dit je me fais porte-parole de tous les trois, merci beaucoup, ça nous a mis du baume au cœur, machin, ok. Et moi, je lui réponds, je dis merde en gros pour la dernière chance, je vous laisse mon numéro si vous voulez des conseils, tenez-moi au courant de qui est éliminé ou quoi, allez, bonne chance, voilà. Moi, je vais au Salon du Chocolat et je reçois un texto en fin de journée. Salut, c'est moi, Quentin. Je te tiens au courant. C'est moi qui ai été éliminée. Et là, je me dis merde. Je sais pas qui c'est. Je l'ai jamais vu en fait. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, je suis au Salon du Chocolat. Je suis avec des chefs. Si tu veux passer, je sais comment ça se passe quand t'es éliminée. On te laisse un petit peu, au bord d'une route. Hein, voilà, les autres continuent et puis toi, tu rentres chez toi. Et personne peut comprendre ce que t'as vécu parce que c'est pas diffusé. C'est très compliqué en fait d'expliquer ça à ton entourage. Écoute, moi j'aurais aimé qu'on me le propose. Tu viens pas. Voilà, en tout cas, je te l'aurais proposé. Il dit, je sais pas, je vais voir. Au revoir. Voilà. Et puis je fais ma démo au Salon du Chocolat et puis je vois un mec qui me fixe en fait dans la foule et je dis mais qu'est-ce qu'il me veut? On se regarde vraiment pendant une longue minute. Je dis mais qu'est-ce qu'il me veut? Et puis là il arrive, il me dit salut, c'est moi Quentin, avec le bon accent aveyronnais. Et puis en fait ça a commencé comme ça et je lui ai fait goûter mon dessert. Et puis moi en plus j'habitais à Nice, lui habitait en Aveyron, je partais en Belgique, puisque c'est au Salon du Chocolat que j'avais mon entretien avec Jean-Philippe Darcy pour partir. Lui reprenait tout juste l'entreprise de sa famille. Donc vraiment, on n'était pas à niveau distance. Et donc, on a vécu un an à distance avec énormément de passion. Et Top Chef m'a un petit peu sauvée de la Belgique parce que du coup, j'ai fait Top Chef. Et à la fin du tournage, j'ai décidé d'habiter en Aveyron.
Voilà. Et donc vous avez ouvert votre restaurant, l'Univers.
Alors l'Univers, c'est vraiment le restaurant de ses arrière-grands-parents, grands-parents. Et après, ça a sauté une génération puisque la maman de Quentin est chanteuse lyrique d'opéra et prof au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Son père est pianiste. Et du coup, c'est le petit-fils qui a repris. Et ça a sauté une génération. Et moi, après, je l'ai rejoint et on a entamé cette belle aventure ensemble.
Que vous venez de terminer.
Qu'on vient de terminer, puisqu'en fait, alors ça n'a rien à voir avec le coronavirus, même si la communication arrive malheureusement pendant. C'est une décision d'il y a plus d'un an. En fait, Quentin a hérité de merveilleuses terres, en fait, à Saint-Igès, là où on habite. Et donc, il a hérité de forêts, de châtaigneraies, de magnifiques étangs, voilà, qui appartenaient à son grand-père. Et donc, il veut monter un projet plus en relation avec la nature qui lui correspond, c'est-à-dire planter ses légumes sur les terres de ses arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents qui étaient maraîchers. Donc il y a tout un sens qui va renaître et mettre ses animaux, respecter encore plus les produits, et dans un lieu magnifique. Et puis aussi pour notre vie de famille aussi quelque part, parce que c'est sur notre lieu de vie en fait, c'est sur une minute. On a déjà actuellement on a nos poules, donc c'est cool. On a la chance d'avoir une vie à la campagne. Bon, là où on habite, il n'y a même pas une boulangerie, hein, mais à 5 minutes en voiture. J'ai une petite école Montessori pour mes enfants. Ils sont à 5 minutes en voiture. On a une autre vie. Donc c'est cool quand on monte à Paris pour travailler, tout ça, on en est très heureux. Mais c'est vrai que de retourner en fait aux valeurs, de toute façon quand je fais mes lives, j'ai l'église qui est à côté, on l'entend sonner, sur l'étage là où on vit, je fais moi mon laboratoire traiteur, et donc je fais de très gros traiteurs en fait sur, je suis à fond en fait dans les mariages, les anniversaires, les baptêmes, de l'apéritif jusqu'au dessert, évidemment sur les gâteaux où tout est possible on va dire avec moi, autant des croques en bouche, des wedding cakes, des nude cakes, tout est possible. Et les mariages, j'affectionne vraiment. Je faisais des mariages déjà avant de rencontrer Quentin et j'adore, ça me passionne. C'est cette relation en fait avec les mariés, les jeunes fiancés, les suivre tout au long. Et j'ai pas vraiment de cartes, de plaquettes, parce qu'avec moi tout est sur mesure. Et je leur crée carrément des recettes selon leur histoire, selon leurs origines, ou en mettant en avant des produits qui sont produits par leur famille ou par leurs amis, ou des demandes même farfelues. Enfin voilà, c'est ce côté aussi encore de sortir de la routine, de se donner des petits challenges et surtout de travailler avec amour pour ces événements où les gens sont heureux, où on est dans le partage, et ça, c'est vraiment ça qui m'éclate.
Et donc à la maison, avec vos deux enfants, Zachary et Evie, vous organisez comment pour...
On va dire
pour
c'est
concilier
plus...
Ouais, vie de famille,
on va dire qu'ils passent vraiment avant tout. Donc c'est vraiment eux qui s'adaptent en fait. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai des tournages, des choses comme ça, ils montent avec moi. L'école où ils sont très très conciliants avec ça et ils sont très gentils. Des fois Zachary et Evie, parce que nous on vit en décalé, donc quand on travaille pendant les vacances scolaires, c'est là où on travaille le plus. On part en vacances, hors vacances scolaires. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Après, ils passent par leur bac non plus. Hein, ils ont 4 ans et 2 ans et demi. Donc il y a un côté où c'est facile. Ils comprennent. Ils aiment partager des recettes avec moi. Dès que j'ai fini un live, Zachary vient me voir. Voilà, t'as fait quoi comme recette aujourd'hui ? Donc ils comprennent. Ils s'adaptent à notre vie de cuisinier, de pâtissier, où on mange un peu en décalé, où on est un petit peu rock'n'roll, on n'est pas du tout en mode « il est 19h pile poil », même si mon petit côté rigoureux aimerait que ça se passe des fois comme ça, mais on est en prestation, on est à droite à gauche et ils nous suivent vraiment partout, quoi. Voilà, parce qu'en plus, ma mère, moi, est sur Nice, sa mère est sur Paris, donc on n'a pas vraiment de famille où c'est facile, en fait, de les faire garder et tout ça, Donc non, il y a des choses qui existent, il y a les centres aérés, ils s'éclatent, on fait des petites activités. Et puis après, on est quand même dans un environnement où c'est facile, il y a des animaux, c'est facile.
Et tu cuisines beaucoup à la maison ?
On cuisine tout le temps à la maison. Voilà. Après, des choses simples, évidemment, que je ne me fais pas des plats en mode top chef tous les jours. Le plat préféré de Quentin, c'est des pâtes à l'arrabbiata. Donc c'est du, par contre, une super sauce, des super pâtes, un super fromage. Voilà, donc on est dans le produit et des fois, la simplicité font des grands plats.
Avec le confinement, c'est vrai que de nombreux Français ont repris la main sur leur cuisine de la sur la cuisine de la maison.
Ouais. Les kilos aussi. On est tous pareils. Hein.
Quels sont tes conseils, toi, pour cuisiner, pour bien cuisiner à la maison, pour s'organiser ?
Il n'y a pas vraiment de conseils, c'est suivre encore une fois un produit de saison, travailler avec des produits locaux, avec nos petits producteurs qu'on a énormément besoin, il faut les soutenir. Et à partir de là, d'un bon produit, je veux dire, pendant le confinement, t'as des super tomates, tu te fais une super tomate mozza, un bon poivre, un bon basilic qui vient d'à côté, enfin... Tu fais un super plat, en fait, c'est très simple, en fait. La cuisine, tu peux faire énormément de choses très simples, mais juste l'assaisonnement, le petit détail, en fait, qui change tout.
T'aimes transmettre au grand public, adapter la pâtisserie pour qu'elle soit facile à faire à la maison, reproductible. Ça t'amuse ?
Ça m'amuse et j'ai presque l'impression que c'est un devoir. Parce que aujourd'hui, voilà, on voit les grands chefs, tout ça, on publie des recettes, même des fois dans des livres qui sont infaisables. C'est compliqué pour quelqu'un qui ne sait pas. Moi, l'idée, c'est dans mes lives de faire à la maison. Ce que je me dis tout le temps dans ma tête, c'est avoir très peu de matériel, très peu de produits, ou en tout cas des produits qu'on peut retrouver très facilement. Parce que je pourrais vous faire des recettes au yuzu avec le dernière machine de ci, de là. Non, les gens n'ont pas ça. Je monte carrément la crème à la main pour montrer que c'est faisable, on peut y arriver et on le fait pas à pas en même temps. Et surtout que je réponds en fait en direct aux gens qui ont des questions. Par exemple, on me dit « Ah, mais j'ai pas tel produit. Ah, j'ai plus de ça. Bon, bah remplace-le par ça ou agis comme ça ou fais comme ça. » Voilà.
T'aimes vraiment te mettre à la portée du grand public.
C'est important, ouais. Voilà, de montrer que c'est faisable et pas forcément parler en termes techniques. Oui, alors vous coupez en brunoise, vous coupez en machin, non, vous faites des petits cubes. Voilà, et du coup, les gens se disent « Bah, à la fin, ouais, ok, j'ai du résultat en fait. C'est joli et en plus c'est bon. » Donc ils sont fiers d'eux et ça... Ça n'a pas de prix. Le nombre de photos que je reçois d'enfants qui font les recettes en famille, donc c'est un vrai partage. Et je suis très très fière de recevoir leurs créations, bah, qu'ils ont réussi et de me dire, bon bah t'as pas fait ça pour rien. Et puis il y en a qui se régalent et c'est cool quoi.
Et ça aide d'avoir du bon matériel à la maison. Tu viens de recevoir le nouveau four sauterre, je crois.
Un minimum. Voilà, il faut quand même. Je veux dire, le four, j'utilise tous les jours. La plaque. À induction, je l'utilise tous les jours. Je veux dire, que ce soit pour cuire des pâtes ou pour faire une belle recette, on a besoin de cuisson. Donc, oui, et ça, au moins le minimum. On n'est pas obligé d'avoir du petit matériel, mais au moins ce qui est important, là, ça l'est. Parce que pour le coup, en pâtisserie ou en cuisine, un four, ça change tout. C'est ce que je leur dis même dans mes vidéos. Je leur dis, bon, des fois, vous ratez. Bah, malheureusement, voilà, peut-être le four est un peu vieux. Il cuit à droite, il cuit à gauche. On a tous essayé de faire notre recette fétiche chez maman, chez Tartampion, chez des amis. Et ça marche pas parce que tous les fours sont différents. Bah, à partir du moment où on a un bon produit, bah, c'est comme un produit alimentaire. À partir du moment où on a un bon produit, bah, on a confiance. Ça devient un peu notre ami, quoi. Et quand on a un four, voilà, comme Sauterre, on est vraiment dans la facilité et ça aide encore plus les gens. Parce qu'on est sur des programmes, je dis n'importe quoi. Hein. Ma mère qui fait pas souvent, qui s'aventure pas dans la pâte à choux, dans des choses compliquées, dans les macarons. Là, il y a des programmes déjà faits en fait qui gèrent la cuisson. Et là, au moins, on est en confiance, on fait notre petite recette. Si tout le monde avait des fours Sauterre ou qui étaient, voilà, des bons fours, eh ben... Je pourrais faire des recettes plus compliquées, genre les gens me demandent les macarons, me demandent des choux, mais je peux pas, ça marche pas, enfin les gens n'ont pas le même four, n'ont pas des fours, on va dire de confiance. Et moi évidemment que c'est facile, je leur dirais bah ok, vous prenez votre four Sauterre, vous mettez le programme macarons, on fait la recette ensemble qui est finalement facile, le plus dur c'est la cuisson, vous le mettez et puis ça se gère tout seul, ça se tempère, ça monte, ça descend, machin, le programme est lancé. Donc évidemment que là ce serait encore plus facile. Alors moi c'est facile pour moi puisque bon, j'ai la chance de l'avoir, mais d'ailleurs d'autres gens vont l'avoir puisqu'on va monter un bon petit jeu concours pour les faire gagner. Mais surtout l'idée c'est de le présenter et de montrer que si vous êtes vraiment passionné et que bah, vous êtes au moment où vous allez changer votre four, bah, tant qu'à faire, mettez le prix, allez-y, parce que finalement c'est pas si cher que ça aussi. On y va, on met le produit, mais derrière vous avez une vraie rentabilité derrière parce que ça va marcher et puis ça va devenir votre compagnon de tous les jours.
Donc, j'ai une dernière tradition dans ce podcast, c'est de demander une recette facile à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner si on veut cuisiner comme Noémie
Bah, vous suivez les lives. Non, mais il y a tellement de lives, tellement de trucs très faciles, soit sur la page Facebook, soit sur Insta. Mais,
une petite recette facile, comme ça qui devient...
Une mousse au chocolat. Alors, c'est ma mousse au chocolat arnaque. Je l'appelle comme ça parce que c'est celle que je faisais dans Top Chef. Elle est très, très facile. Et on peut l'agrémenter de plein de choses. Alors, tu vois, de mémoire, on vient faire chauffer 120 grammes de lait. On vient faire infuser dans le lait ce qu'on veut. Ça peut être de la vanille, un zeste de citron, du citron vert, de l'orange, un sachet de thé, du poivre. On met ce qu'on veut. On ajoute 4 grammes de gélatine, donc l'équivalent de 2 feuilles, okay, qui ont ramolli dans de l'eau froide. On le met dedans une fois que ça chauffe. Et ensuite, on vient verser ce lait qui bout sur 170 grammes de chocolat. Le chocolat, moi, ce que je fais, c'est pour que ce soit pas ni trop amer ni trop sucré, je mets 100 grammes de chocolat au lait et 70 de chocolat noir. Après, on peut le faire 100% chocolat blanc, 100% chocolat noir, 100% chocolat au lait. On peut même mettre un peu de praliné, on fait ce qu'on veut. On le verse dessus, on remue au fouet, donc on va avoir une ganache. Et ensuite, on fait monter 240 grammes de crème liquide à 30-35% de matière grasse, parce que le gras c'est la vie, je le dis souvent. Et non, c'est surtout que sinon ça marchera pas si c'est des crèmes avec moins de matière grasse, ça montera pas, l'air se fixe pas. Et on vient le mélanger délicatement à la marise, une fois que le chocolat est à peu près à 40 degrés. On va me dire, ah mais j'ai pas de sonde. Vous prenez le doigt, vous le mettez sur vos lèvres, faut pas que ce soit ni trop chaud ni trop froid. On le mélange, vous mettez en pot et vous avez la mousse au chocolat. Qui est parfumé avec un petit zeste, avec ce que vous avez à la maison. On met quelques petits copeaux de chocolat, un petit peu de noisettes, on met ce qu'on veut et c'est parti.
Merci Noémie.
Avec grand plaisir.
Vous venez d'écouter Noémie Ognia, chef pâtissière à la tête de sa propre structure événementielle. Pour découvrir le savoir-faire et les secrets culinaires de Sauterre, marque d'électroménager experte de la cuisson, rendez-vous sur la page Instagram ou Facebook Sauterre électroménager. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.